Et le journal est présenté par Lise Verbeek. Bonsoir Lise.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le Parlement catalan a voté en faveur de l'indépendance. Une heure plus tard, Madrid réplique. Les sénateurs ont adopté l'application de l'article 155 pour une mise sous tutelle de Barcelone. Le pays entre dans l'inconnu. Nous serons en direct avec notre correspondant en Espagne, Mathieu de Taillac. La faim utilisée comme arme de guerre dans la banlieue de Damas. L'ONU dénonce cette violation du droit humanitaire en Syrie après la publication de photos choquantes d'enfants squelettiques. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, condamné à 3 ans de prison avec sursis. C'est le premier jugement français dans l'affaire des biens mal acquis qui servira d'exemple pour les autres procédures en cours, nous dira Sarah Petitbon. Emmanuel Macron en Guyane, il a réaffirmé les promesses tenues sous le gouvernement précédent, mais il s'est montré très ferme après les heurts d'hier soir. L'enquête, comme chaque vendredi et ce soir, consacrée au financement de la campagne présidentielle de l'UMP en 2007. Les juges en charge de l'enquête ont découvert que des liasses de billets avaient été distribuées à des salariés de la campagne du candidat Sarkozy. Madrid, Barcelone, chacun a abattu sa carte maîtresse aujourd'hui. D'un côté, le Sénat a voté l'application de l'article 155 qui permet à Madrid de placer la Catalogne sous tutelle. De l'autre, le Parlement catalan a acté son indépendance. Les mots employés ont été très forts. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, s'est exprimé juste avant le vote du Sénat.
Nous vous demandons d'autoriser le gouvernement à procéder à la destitution du président de la Généralité de Catalogne, de son vice-président et des conseillers qui forment leur gouvernement. Il n'y a pas d'alternative. Nous sommes devant une décision exceptionnelle, parce que la situation, elle aussi, est exceptionnelle. Nous sommes devant un défi inédit dans notre histoire récente, un défi qui va plus loin que le mépris de la loi, que le désastre économique, que la confrontation sociale, que la désobéissance au tribunal constitutionnel, que la volonté manifeste de fracturer l'unité des Espagnols. Nous sommes devant un défi à l'État qui remet en question et menace de renverser tout ce que nous avons construit depuis si longtemps. L'histoire jugera aussi de notre volonté de répondre à ce défi.
L'histoire jugera, c'est en tout cas une journée historique que vit l'Espagne aujourd'hui. Bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir.
Vous êtes à Barcelone. Le Parlement catalan, je le disais, a donc voté une résolution pour déclarer la région comme État indépendant prenant la forme d'une république.
Oui, Élise, la majorité indépendantiste au Parlement catalan a approuvé une résolution par 70 votes pour, 10 votes contre et 2 votes blancs, avec tout de même un gros tiers de l'hémicycle qui était à moitié vide, puisque les 53 représentants de Ciudadanos, ce sont des centristes, le Parti populaire de droite et les socialistes, avaient quitté leur siège pour protester et pour éviter de participer à ce vote. Alors, l'indépendance a été déclarée de manière, il faut dire, assez ambiguë. C'est un texte de 10 pages qui a été voté. Au lieu d'une simple phrase, les indépendantistes ont été chercher un texte qu'ils avaient signé le 10 octobre dernier hors de l'hémicycle, qu'ils rappellent dans le préambule de la résolution et par lequel ils disent effectivement constituer la République catalane comme un État souverain et indépendant. Quoi qu'il en soit, la Catalogne avec elle, le reste de l'Espagne plonge dans l'inconnu pour les indépendantistes. La Catalogne, au contraire, pour les dirigeants espagnols, une région d'Espagne sur le point de passer sous la tutelle. Parce que c'est ce qu'a voté le Sénat en autorisant à prendre des mesures inédites, on l'a dit, telles que la destitution du président catalan Carles Puigdemont et de l'ensemble de son gouvernement. Reste à savoir comment mettre en œuvre ces mesures, comment obliger le gouvernement Puigdemont à accepter sa destitution. Les deux grandes associations indépendantistes pourraient appeler leurs sympathisants à protéger physiquement les institutions catalanes, ce qui contraindrait Madrid à déployer la police. Et puis l'indépendance, quant à elle, est encore plus loin d'être acquise. Outre la réaction de Madrid, dont on vient de parler, la Catalogne a toutes les raisons de craindre d'être splendidement ignorée par la communauté internationale, qui semble vraiment pas pressée de reconnaître cette supposée République catalane.
Merci Mathieu de Taillac en direct de Barcelone, et pardon pour cette liaison difficile. Un conseil des ministres extraordinaire à Madrid démarre en ce moment même, tandis qu'à Barcelone, des milliers de manifestants favorables à l'indépendance se sont réunis. Nous reviendrons bien sûr sur la situation espagnole dans nos prochaines éditions. Le Kenya déchiré. Le boycott de l'élection présidentielle hier a ravivé une profonde division dans le pays. Les premiers chiffres égrenés toute la journée montrent une victoire du président sortant, Kenyatta, avec une participation très faible, après à peine 35% de votants. Son rival historique, Odinga, continue d'appeler ses partisans à ne pas se déplacer aux urnes, notamment dans 4 comtés de l'Ouest où l'élection a dû être reportée à cause de violences. Élection reportée, Laure Broulard, Sinédier, on vient de l'apprendre.
Étant donné que la commission électorale persiste dans ce processus électoral insensé et forcé, nous demandons aux Kenyans des comtés concernés de rester à l'écart du scrutin, a déclaré Musalia Mudavadi, un des leaders de l'opposition. Le camp de Raila Odinga se félicite d'un boycott, je cite, « massivement suivi » et n'hésite pas à parler de « génocide » de la tribu Luo en référence aux violences policières. Alors que les premiers résultats de la majorité des bureaux de vote du pays sont actuellement compilés à Nairobi, dans les fiefs de Raila Odinga à l'ouest du Kenya, on se prépare donc encore une fois à ne pas voter. Le président de la commission électorale n'a qu'à venir reprendre ses urnes, ont lancé dans une déclaration commune les leaders religieux de la région ce matin. Selon eux, le report de l'élection est la porte ouverte au chaos dans la région. On compte déjà au moins 3 morts et une quinzaine de blessés par balle dans le comté de Kisumu, selon le gouverneur. Ce soir, des jeunes des quartiers populaires de la ville commençaient à barrer les routes pour empêcher le matériel électoral d'être délivré, dit l'un d'eux, qui passera la nuit dehors à patrouiller. Entre deux altercations avec la police, ils hurlent « Demain, pas d'élection » et « Uhuru doit partir ».
Laure Brouleur, notre correspondante dans l'ouest du Kenya. Il n'y a plus de doute possible. Selon un rapport de l'ONU, le régime syrien est bien responsable de l'attaque au gaz sarin en avril dernier dans la province d'Idleb. Le bombardement avait tué 83 personnes, dont une trentaine d'enfants. Les Nations Unies qui ont également condamné aujourd'hui la privation de nourriture, je cite, « délibérée de civils comme tactique de guerre ». Suite à la publication de photos d'enfants squelettiques dans la banlieue de Damas, la Routa, banlieue tenue par les rebelles et assiégée par l'armée syrienne. Des photos très choquantes selon l'ONU. Ziad Majeb est politologue, il enseigne à l'université américaine de Paris.
Le siège de la Routa de Damas, qui est imposé par le régime Assad, a commencé en septembre 2013. Et il y a eu des résolutions onusiennes, comme quoi il doit y avoir des couloirs humanitaires, que les sièges doivent arrêter, que l'arme, la faim, ne doit pas être utilisé contre les civils. Cela continue et le régime avait utilisé un slogan que ses partisans écrivaient même sur les murs, le joua ou le recours, c'est-à-dire la faim ou la submission. La submission à la volonté du régime et à la volonté d'Assad. Donc la faim a été utilisée comme arme de guerre et cela est un crime de guerre. Donc il s'ajoute au record de crimes de guerre dans le contexte syrien.
Et pourtant la Routa fait partie de ces zones de désescalade qui ont été instaurées en Syrie pour obtenir une trêve dans les combats, mais de trêve il n'y a pas.
Non, il y a des zones qui sont comprises par la trêve, mais où les combats se poursuivent. Je pense que la stratégie du régime sous cette trêve-là, c'est de grignoter encore plus du terrain, notamment autour de la capitale Damas. Il y a toujours des bombardements et le mois de septembre était un mois très meurtrier dans toute cette zone-là. Donc la trêve fonctionne dans certaines zones, mais ce n'est pas le cas partout en Syrie. Il y a des régions non contrôlées par Daesh, mais par des acteurs de l'opposition qui restent toujours sous les bombes et parfois sous les raids aériens.
Le politologue Ziad Majeb au micro de Valérie Crova. C'était le premier procès du genre et on est maintenant à l'aboutissement de longues années de procédures. La première condamnation dans l'affaire des biens mal acquis. Théodorine Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, a été reconnue coupable de blanchiment, d'abus de biens sociaux et de corruption, entre autres par le tribunal correctionnel de Paris ce matin. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, à une amende de 30 millions d'euros avec sursis également pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. C'est l'aboutissement donc de 10 années de procédures et ce jugement Sarah Petitbon a d'abord une valeur d'avertissement.
Oui, c'est ainsi que la présidente du tribunal a présenté ce jugement moins sévère que ce qu'avait requis le parquet national financier qui réclamait 3 ans d'emprisonnement ferme et 30 millions d'euros d'amende ferme là aussi. Pour la justice française, il s'agit d'abord d'envoyer un signal à ceux qui ont aidé Théodorine Obiang à bâtir cette fortune en France. Dans le viseur, les banques. Car si Obiang a pu effectuer des virements vers la France, c'est bien parce que des banques françaises l'ont permis et ont fermé les yeux sur la provenance douteuse des fonds, en cause notamment la Société Générale, mais aussi la Banque de France, considérée comme complaisante par la présidente du tribunal. Le jugement est donc un signal très fort pour Lorraine Bounot, déléguée générale chez Transparency International France.
tout l'objet de cette condamnation, c'est d'envoyer un avertissement à tous ceux qui ont facilité ce système de corruption pour leur dire maintenant, il n'y a plus d'impunité. Les dirigeants corrompus qui avant bénéficiaient d'une certaine complaisance de ces agents, mais aussi des autorités françaises, eh bien ce n'est plus le cas. La France ne peut plus être une place de blanchiment pour cet argent-là. Donc allez dépenser votre argent ailleurs, en tout cas pas chez nous. Nous avons pris une décision forte et symbolique et un signal qu'on envoie à tous ces gens-là pour leur dire ces manœuvres-là, c'est fini.
Les avocats de Théodorine Obiang ont pour leur part dénoncé un jugement militant et annoncé qu'ils allaient examiner toutes les voies possibles de recours.
Merci Sarah Petitbon. La parole de l'État français sera tenue. Emmanuel Macron a assuré cet après-midi aux Guyanais que le plan d'aide d'urgence d'1 milliard d'euros promis par François Hollande sera respecté. Mais après les incidents d'hier soir entre des manifestants et les forces de l'ordre, le chef de l'État s'est aussi montré très ferme, Louise Baudet.
Nouvel exemple du parler vrai d'Emmanuel Macron. Les mots sont tranchants, l'adversaire clairement désigné, le casseur, le délinquant, le cagoulé.
Vous avez des gens qui sont violents, c'est-à-dire vous aviez des délinquants. Et la République, elle ne cède pas aux gens qui sont en cagoule. À ceux qui pensent que la violence fait tout céder, je leur dis avec moi, vous allez comprendre que ça n'est pas la bonne méthode.
Seul interlocuteur légitime à ses yeux, les élus de la République, pourtant signataires des accords du printemps dernier, le collectif Poula Guyane décollé en prend pour son grade.
Quand je les écoute, j'ai parfois le sentiment, en effet, qu'ils demandent à ce qu'on verse 1 milliard ou plus sur un compte en banque à un collectif. Non, ça ne marche pas comme ça, la République.
Sur le fond, les engagements pris en avril seront tenus et le plan d'urgence d'un peu plus d'1 milliard d'euros budgétisé, mais attention, ce sera pas plus, mais pas moins. Et inversement, les 2 milliards de mesures supplémentaires que l'État avait promis d'examiner ne constituent pas un engagement.
Il n'y a pas eu d'engagement pour dire on va les faire, les 2 milliards d'euros. Le fait de ne pas avoir cédé plus de 3 milliards d'euros, je crois, était un bon choix. Ce qui est bon n'est pas forcément ce qui est cher.
Une fin de non-recevoir adressée au collectif sur le fond et dans la forme.
Pour ma part, je n'ai jamais compté rencontrer le collectif, soyons très clairs. Parce que j'ai trop de respect pour les maires qui m'ont dit combien ils avaient été déstabilisés par l'action du collectif au printemps dernier.
Rencontre pourtant confirmée hier à plusieurs reprises par l'Élysée, mais on avait, paraît-il, mal compris.
Reportage de Louise Baudet en Guyane. La Commission européenne a fixé une nouvelle date pour le vote des 28 concernant la prolongation de la licence d'utilisation du glyphosate. Ça sera le 9 novembre prochain. La Commission qui soumet donc cette proposition renouveler l'utilisation du pesticide pour 5 ans. La France, par la voix de Matignon, a annoncé qu'elle rejetait cette proposition. La France s'en tient à la volonté de rester sur une période qui n'aille pas au-delà de 4 ans, a indiqué Édouard Philippe. Le Premier ministre qui est en ce moment même dans le Maine-et-Loire, Édouard Philippe qui continue sa périlleuse mission de calmer la grogne des élus, très remontée après les annonces de cet été, la réforme de la taxe d'habitation, la baisse des emplois aidés, les efforts d'économie réclamés aux collectivités. Édouard Philippe est donc cet après-midi à Saint-Sylvain d'Anjou pour la conférence des territoires décentralisés à la rencontre des maires. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Lise.
Alors après les régions fin septembre, les intercommunalités début octobre, le congrès de l'Assemblée des départements la semaine dernière, le Premier ministre Stéphane tente une nouvelle fois de les amadouer.
Oui, on peut appeler ça de la calinothérapie. On pourrait dire également qu'Édouard Philippe est venu prendre la température, répondre aux questions, faire la pédagogie de ce que le gouvernement propose. Et la grosse question, là où on a senti un peu de tension entre le Premier ministre et la vingtaine de maires du Maine-et-Loire venus à sa rencontre, c'est quand a été soulevé le problème des finances des collectivités. Vous allez nous supprimer la taxe d'habitation, a dit l'un des maires présents. Vous savez que c'est l'une de nos principales ressources. Oui, mais c'est un impôt très injuste, a répondu Édouard Philippe. Il y a de grosses différences entre communes riches et communes pauvres, et puis il sera compensé à l'euro près. D'accord, mais les 13 milliards d'euros d'économies que vous réclamez, a repris le même maire, comment est-ce qu'on va faire ? Attention, a répondu Paul.
Stéphane Robert, on a perdu la liaison avec Saint-Sylvain d'Anjou. Stéphane Robert, bon, on y reviendra peut-être à la fin de ce journal. Les Insoumis, eux, resserrent les liens avec la gauche grecque, la gauche anti-Tsipras, et pour cela, rien de mieux qu'une visite. Les députés Bastien Lachaud, Bénédicte Taurine, Loïc Prud'homme, mais aussi Jean-Luc Mélenchon sont aujourd'hui et demain à Athènes. Le leader de la France Insoumise participe au lancement du parti de Zoé Constantopoulou, ancienne présidente du Parlement grec, mais elle a été surtout l'une des figures charismatiques du parti Syriza, aux côtés d'Alexis Tsipras. Zoé, comme les Grecs l'appellent, et Jean-Luc Mélenchon ont tous les deux en travers de la gorge ce qu'ils appellent la trahison de Tsipras face aux créanciers d'Athènes. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous êtes à Athènes. Alors quel est l'intérêt pour l'insoumis Mélenchon de venir en Grèce ?
Bien, c'est un lieu hautement symbolique. Athènes, tout d'abord, c'est ici donc Jean-Luc Mélenchon. On va s'exprimer dans quelques instants, 2 mois et demi après la sortie très polémique d'Emmanuel Macron sur les fainéants, les cyniques et les extrêmes. L'occasion donc pour le leader de la France insoumise, premier opposant revendiqué au président de la République, de répondre d'ici et de laver l'affront en quelque sorte. Sur l'Europe, la Grèce est le symbole de la politique d'austérité, avec encore aujourd'hui des fonctionnaires qui ne sont pas payés régulièrement tous les mois, symbole aussi de la crise migratoire. Le député Bastien Lachaud est allé hier dans le camp de Samos, député France Insoumise, pour mettre en avant le fait que 2400 personnes s'entassent ici dans une structure prévue pour 1700 migrants. Et la présence de députés France Insoumise aux côtés de Jean-Luc Mélenchon tend d'ailleurs à mettre en avant plus un collectif qu'un simple culte du chef. La Grèce, c'est aussi la rupture sur le plan politique avec Alexis Tsipras, vous l'avez dit, après la signature de l'accord avec la Troïka à l'été 2015 et les mesures d'austérité imposées contrairement au référendum 2 jours plus tôt. Rupture aussi avec Zoé Constantopoulou, ex-éphémère présidente du Parlement grec.
Décidément, on a
avec la naissance d'un...
Sophie Delpont à Athènes. Sophie, mille excuses pour ces problèmes de liaison dans ce journal. Merci Sophie Delpont, en direct donc d'Athènes avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Jean-Luc Mélenchon qui ne devrait pas tarder à s'exprimer donc devant les Grecs. Des liasses de billets distribués à des salariés de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy en 2007. Les juges ont fait des découvertes étonnantes dans leur enquête sur les soupçons de financement de campagne présidentielle de l'UMP par le colonel Kadhafi. C'est donc un nouveau volet de l'affaire judiciaire. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Lise.
Vous faites partie de la cellule d'investigation de Radio France et vous avez enquêté avec Benoît Colombat sur cet argent liquide qui a circulé en 2007. Et aujourd'hui, plusieurs témoins lèvent le voile sur ce qu'il s'est passé.
Oui, ce sont d'anciens salariés de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ils étaient donc au cœur de la machine présidentielle à l'époque. Ils ont été entendus par les juges chargés de l'affaire libyenne, ces soupçons de financement politique par le colonel Kadhafi. Et ce qu'ils ont dit, ces témoins, sur procès verbal est assez spectaculaire. Oui, de l'argent liquide a bien circulé pendant la campagne. Pour ces salariés, c'était une prime en espèces. Voilà ce qu'a déclaré aux enquêteurs l'une des secrétaires du QG de Nicolas Sarkozy. Nous avons fait lire son témoignage.
En 2007, j'ai touché une enveloppe d'environ 3000 euros. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'on participait à une présidentielle, on était plus payé. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de travailler pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Ces primes, touchées en espèces, nous savions qu'elles étaient occultes, que c'était du net, que nous n'avions pas à les déclarer aux impôts.
Et ce témoignage, il est loin d'être isolé. Écoutez par exemple ce que déclare sur procès verbal l'ancienne chargée de communication du candidat Sarkozy.
Le directeur financier de l'UMP m'a donné une enveloppe. Elle contenait entre 500 et 800 euros, en grosse coupure. Je me souviens que c'était le défilé dans son bureau. Tout le monde venait chercher son enveloppe. Les enveloppes étaient stockées dans un coffre-fort. Il y en avait plusieurs centaines.
Alors ce témoin parle de centaines d'enveloppes, de grosses coupures, mais d'où sort cet argent, Élodie ?
Eh bien c'est toute la question, hein. Et là-dessus, l'ancien trésorier de la campagne, Éric Woerth, a été entendu par les enquêteurs et il a une explication. Cet argent, entre 30 et 35 000 euros, est arrivé de manière anonyme. Nous avons là encore choisi de faire lire un extrait de son audition.
Ces dons anonymes se sont répétés. C'est moi qui ai ouvert la plupart des courriers contenant des espèces. La majorité des enveloppes contenaient plusieurs milliers d'euros.
De quel type de coupure s'agissait-il ?
Plutôt des grosses coupures.
Vous êtes-vous posé la question d'une origine frauduleuse de ces fonds ?
Non, cet argent me gênait. C'était plus encombrant qu'un don du ciel. Nous avons même pensé à le détruire.
Alors les enquêteurs, eux, ne sont pas convaincus par cette version de don anonyme tombé du ciel qu'Éric Woerth aurait même songé à détruire, surtout après avoir entendu la responsable du courrier à l'UMP. Voilà ce qu'elle a déclaré.
Je n'ai jamais vu de courrier qui contenait des espèces.
Est-il envisageable qu'un particulier vienne déposer à l'accueil un pli contenant des espèces sans que son identité ne soit relevée ?
Non, c'est pas possible.
Impossible donc, selon cette salariée, de déposer anonymement du liquide. Alors pour en avoir le cœur net, nous avons tout de même posé la question à l'actuel trésorier du parti Les Républicains, Daniel Fasquelle.
Je n'ai jamais reçu aucun don en espèces, en petite ou en grande coupure. Ce sont des pratiques qui ont complètement disparu. Ici, si ça arrivait, immédiatement, je le ferais constater par un huissier et je remettrai ces sommes d'argent à la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie publique.
Oui, parce que c'est un point important que soulève la Danielle Fasquel. Des dons en espèces doivent de toute façon être déclarés à la commission chargée de valider les comptes des candidats. Et ça, donc, Éric Woerth ne l'aurait pas fait.
Votre enquête, Élodie Guiguin, est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le temps pour demain, du soleil franc sur toute la moitié sud du pays, des éclaircies dans le reste de la France. L'après-midi, les nuages resteront dans l'ouest. Les températures baissent légèrement, de 12 à 15 degrés sur la moitié nord et de 16 à 21 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun et encore toutes nos excuses pour ces liaisons difficiles avec nos correspondants.